Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Délestage, à qui profite à ces coupures d'électricité? À quelle explication aux coupures d'électricité auxquelles le Mali fait face en cette période de chaleur? Pourquoi la situation s'empire d'année en année, s'interrogent des habitants? Quels sont les impacts économiques et sanitaires sur la population? Y a-t-il une solution à ces délestages? Faut-il se tourner vers les énergies renouvelables? Si oui, comment? Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose donc le débat avec ses invités, Abdul Wahab Adjak, un membre de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA, Ibrahim Mariko, économiste au centre d'études stratégiques Séné, Chan Sirfi Alpha, notable à Tombouctou, au téléphone. Toutes nos tentatives pour avoir les responsables de l'EDMSA sont restées vaines. Je suis Imran Akilou Maïga, auditeur, invité, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Diakité, quel est déjà le regard du consommateur sur ces délestages?
Merci bien, monsieur Imran. Nous, nous disons tout simplement que c'est un mépris à l'endroit du peuple malien. Parce que c'est un problème récurrent. Depuis plus de 20 ans, nous sommes en train de faire des propositions, mais nous ne voyons pas de volonté politique affichée par les plus fortes autorités de notre République.
Un mépris, vous dites?
C'est un mépris.
Pourquoi?
Un mépris, mais imaginez un peu. Un pays comme le Mali, on a le soleil en abondance, de l'eau en abondance. Mais faute de vision, tous les ans, à la même période, c'est le délestage. Si on n'avait pas eu d'alternative, oui. Mais c'est un problème qui a été souligné depuis 1998. Quand nous avons eu la chance, à la suite d'un délestage, nous avons jugé nécessaire, parce que l'énergie occupe un rang de choix dans la stratégie de développement. Donc nous avons eu à visiter les installations techniques de l'EDM. Et à la suite de notre visite, nous avons rencontré le chef de l'État en son temps. Nous lui avons donné, en tout cas, un plan par rapport à la prise en charge du délestage. Et à la suite de cette rencontre, le Premier ministre de l'époque a fait également une visite et a débloqué un fonds d'un milliard en son temps pour pouvoir faire face à ce problème récurrent. C'est pourquoi je parle de mépris. Parce que de 98 ans au jour, jusqu'à présent, les mêmes mots, les mêmes problèmes, pour moi, c'est un mépris.
Abdul Wahab Diakité estime que ce délestage est un mépris à l'endroit des populations maliennes. Est-ce que vous partagez son avis?
Je pense que dire que c'est un mépris, c'est un peu trop fort. Je dirais que c'est un manque de volonté, tout simplement, parce que dans un pays où on a le secteur secondaire qui vient en deuxième position en termes de participation à notre croissance, voir qu'à cette période de l'année, il y a des coupures vraiment intempestives. Les industries souffrent et la population également, parce que avec toute cette chaleur et puis ces moments aussi, je pense que dire que c'est un mépris, c'est un peu trop fort, mais c'est un manque de volonté vraiment des plus hautes autorités de notre pays. Déjà, il a évoqué un peu d'autres possibilités, les énergies renouvelables et encore l'abondancement du soleil. Je dirais tout simplement qu'il faut un homme d'État concret qui puisse vraiment relever tous ces défis en matière de l'énergie au Mali.
Les deux intervenants évoquent un manque de volonté. Chan Sirfi, à Tombouctou, déjà la direction régionale de l'EDMSA a annoncé ce mardi une perturbation de 11h à 19h. Qu'est-ce que vous pensez de ces délestages?
Le délestage, vraiment, c'est très, très gênant. Et surtout que, normalement, au XXIe siècle, c'est un point qui ne doit pas se poser. Ça ne doit pas se poser parce que nous avons quand même une énergie à en revendre, le soleil. On aurait dû l'exploiter. Donc, le délestage, vraiment, à notre corps dépendant, c'est un phénomène qui doit nous mettre mal à l'aise.
Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette récurrence de délestage?
À mon sens, rien ne peut expliquer que le fonctionnement général du système, fonctionnement général qui me renvoie, par exemple, si l'on en croit les chiffres, les informations, l'État doit beaucoup à EDM. Donc il y a des arriérés à n'en pas penser. Donc si cela doit jouer forcément sur le fonctionnement, donc cela revient à dire que c'est une volonté politique qui est là, qui manque. Il y a un manque de rigueur qui est à la base de cela.
Des arriérés et un manque de rigueur, est-ce que vous partagez des arriérés, vous en savez, en tant que consommateur, association de consommateurs?
Non, nous avons notre lecture par rapport à ces arriérés et tout ce qui s'ensuit. Nous avons dit dans le temps, nous avons proposé que le président s'adresse à la nation et qu'on organise un débat autour de l'énergie, de l'électrification même du pays. Parce que dans les autres pays...
C'était des propositions que vous avez faites?
Des propositions concrètes, juste en 2017 tout près. En 2017 tout près, on a adressé une lettre au Premier ministre. Exactement. Parce que Dieu faisant bien les choses... C'est lui qui était Premier ministre en 1998. Et pour nous autres, avec toutes nos propositions, il devrait venir un homme éclairé par rapport à l'électrification de notre pays. Mais malheureusement, on se contente des plans d'urgence qui ne valent rien, qui ne nous amènent nulle part. Également, quand on parle d'arrière et autres, si effectivement vous partez pour louer des groupes autres, c'est sûr qu'il y aura des arriérés. Parce qu'il n'y a pas l'utilisation rationnelle des ressources de l'État. C'est ça. Donc nous ne partageons pas cela.
Est-ce que les mêmes propositions ont été faites pour ce nouveau gouvernement?
L'État, c'est une continuité. Et d'ailleurs, moi, j'étais même content parce que les autorités actuelles, à travers l'EDM, ils ont lancé des avis il y a 2 ou 3 mois en disant que tous ceux qui... Ne seront pas à jour par rapport au paiement de la facture, ils vont être pénalisés et tout ça. Là. Pour moi, c'était à partir du 1er avril. Et la lecture que nous avons faite de cela, c'est quoi? C'était juste de dire tout simplement qu'il n'y aura plus de délestage au Mali. Parce que qui parle de droit,
en ça veut... cause.
Mais ils ont dit, à partir du 1er avril, tout ce qui sera en retard de facture de paiement sera soumis à des pénalités. Il y a ce communiqué de l'EDM. Et je l'ai entendu sur la radio Mali même. Donc pour moi, quand tu prends de telles mesures, ça veut dire que réellement tu as pris toutes les dispositions nécessaires pour prendre en compte les préoccupations des populations. Je maintiens ma position, c'est un mépris, un manque de vision de la part de nos autorités.
L'année dernière, les responsables de l'EDM SA expliquaient ce délestage par une panne technique. Cette année, ils évoquent une panne sur le réseau d'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire, selon un communiqué en date du 5 avril dernier. Que pensez-vous de ces pannes? Sont-elles les causes de toutes ces coupures?
Oui, évidemment, parce que nous nous sommes servis par soit la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Donc c'est pour dire qu'une fois que ces pays ont des problèmes, que ce soit des problèmes internes ou de transport, parce que vous savez, l'électricité est transportée sur des gros canaux. Donc ces canaux, est-ce que ces canaux sont entretenus chaque année comme il le faut, parce qu'il y a un délai d'entretien. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a eu des pannes au niveau du transport, vraiment de l'électricité de ces deux pays, d'autant plus que, comme le représentant des consommateurs l'a dit, les gens paient de l'électricité. Nous pensons qu'une partie de ces fonds doit vraiment être allouée à l'entretien vraiment de ces équipements, parce que c'est des équipements assez énormes, donc il faut vraiment prendre soin de ça. Et à revenir pour dire que notre pays, en termes de consommation d'électricité, n'est que 5%. Donc, quand nous prenons un peu les industries vraiment qui évoluent, parce que d'un côté nous avons les ménages et de l'autre côté nous avons les entreprises. Des industries vraiment qui fonctionnent dans ce cadre-là, quelle perte pour eux en termes de profit quand une coupure d'électricité ou bien quelle explication vraiment l'IDM peut donner vraiment à ses usagers pendant une heure de temps de coupure d'électricité. Donc c'est pour dire qu'il faut revoir vraiment le système. Il a parlé de réformes dans le secteur de l'énergie. On fait des propositions. Dans notre pays, absolument tout. Vous savez, depuis le 15 mars 2000, il y a une ordonnance qui est sortie et qui demande qu'il faut vraiment privatiser vraiment ce secteur. Mais rien n'a été fait. Là aussi, on interpelle les privés maliens. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de vous orienter? C'est vrai, c'est un secteur assez énorme, l'investissement peut être assez élevé, mais pourquoi ne pas privatiser comme les télécoms, comme nous avons aujourd'hui?
Alors, est-ce que, San, toutes ces explications des responsables de l'EDM SA tiennent pour qu'il y ait tous ces délestages sur l'ensemble du territoire national? Il n'est pas avec nous. Quelles conséquences ces coupures ont-elles sur les populations?
Mais il y a toutes les conséquences. Imaginez un peu, vos braves dames là, juste derrière votre studio, je vois deux dames, elles se lèvent à 4h du matin pour faire la collecte et de la glace. Et vers 18h, ils prennent un taxi pour aller vendre à la périphérie. Donc, chaque jour, ces belles dames-là peuvent se faire 100 000 francs le chiffre d'affaires. Mais avec la coupure hier, la dame est restée ici. Est-ce qu'elle a eu une dizaine? Non. Donc déjà, à son niveau, il faut voir. Et sur le plan santé, c'est des problèmes. Bon, et Mariko a parlé de l'industrie. Vraiment, on ne peut même pas évaluer à juste valeur les conséquences de ces délestages-là.
Quel impact de ces délestages sur l'économie du pays?
Vous savez, notre économie est portée par le secteur secondaire. Il a rappelé tout de suite le secteur des industries. Et nous parlons de la transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut quitter des conjonctures à cette transformation-là. Mais lorsqu'il n'y a pas d'électricité, lorsque vous avez un manque de l'énergie, comment vous voulez atteindre cela? Aujourd'hui, on parle de toutes les réformes. On parle même des réformes économiques. Nous sommes un pays de production, mais nous ne transformons pas. Quand nous prenons un peu le secteur du coton, on produit le coton, on est premier producteur, mais nous transformons combien? Pour transformer, il faut des industries, mais des industries qui fonctionnent avec de l'énergie, notamment de l'électricité. Donc, je pense qu'il est temps que... Il a dit qu'un débat public vraiment soit fait autour de ce concept de l'énergie, parce que ce n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est de tout le monde. Sans l'énergie, il n'y a pas de développement.
Si ces délestages, comme vous le dites, ont un impact négatif sur l'économie du pays, pourquoi les autorités n'anticipent pas sur ces coupures?
Bon, en fait, l'anticipation a toujours manqué dans nos politiques. L'anticipation a toujours manqué dans nos politiques économiques. Quand vous prenez, que ce soit de 1960 à nos jours ou bien de 91 à nos jours, vous verrez que tous nos documents de politique économique sont axés sur des périodes très limitées, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maximum d'anticipation qu'il faut faire. Sinon, en réalité, on devrait être indépendant énergétiquement. Le gars, il a dit qu'en 2021, ce n'est pas possible qu'il y ait des coupures de ces gens. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas anticipateur et on a des États ou des gouvernements vraiment qui viennent pour des périodes et ils évaluent leur bilan en fonction de ce qu'ils peuvent faire.
Ces coupures d'électricité provoquent des arrêts de travail dans les structures sanitaires, nous explique Jimmy Kanté, porte-parole du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré. Selon lui, il arrive souvent que des patients meurent à cause de ces coupures d'électricité. Écoutons-le.
Il est clair que ces délestages constituent un véritable problème pour les structures de santé et plus précisément pour l'hôpital le plus fréquenté du Mali, qui est l'hôpital Gabriel Touré. Tout le temps, pendant des interventions chirurgicales, les médecins sont obligés souvent d'arrêter le temps que le groupe électrogène démarre. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que du fait de ces délestages, le groupe électrogène est régulièrement sollicité. Donc, ça fait des dépenses supplémentaires. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il y a des équipements ultra sophistiqués qui ne supportent pas ces délestages-là. Donc, ça crée énormément de problèmes. Non seulement des problèmes sur la vie des patients, mais également des problèmes sur ces équipements lourds qui sont régulièrement en panne du fait de ces délestages-là. Et ça, c'est parce que à Gabriel Touré, récemment, nous avons acquis un groupe d'électrogènes. Sinon, avant, les délestages pouvaient durer une heure de temps, deux heures de temps. Et imaginez pour des malades qui sont sous oxygène, franchement, c'est compliqué. Et surtout en pédiatrie, et chaque fois qu'il y a des délestages, des salles débrûlées et où il faut éteindre vraiment la climatisation, la lumière et tout, tout, tout. Et il y a beaucoup de structures de santé au Mali qui n'ont pas de groupe électrogène, malheureusement. Donc, chaque fois qu'il y a un délestage, on peut dire qu'il y a des pertes en vie humaine. Ces délestages causent clairement des pertes en vie humaine pour des structures de santé qui n'ont pas d'alternative, qui n'ont pas de groupe électrogène, et Dieu sait combien ils sont nombreux. Il faut vraiment que les dirigeants prennent conscience du tort que ces délestages causent-là. Et pour qu'ils le sachent, il faut vraiment qu'ils se privent eux-mêmes des groupes électrogènes qu'ils ont. Ils ne peuvent pas comprendre, réfléchir, trouver des solutions tant qu'ils ne subissent pas les conséquences de ces délestages-là. Donc, un bon responsable, c'est vraiment de subir les conséquences de ces délestages au même moment que la population.
Quelle est votre analyse de propos de Jimmy Kanté?
Non, je les partage totalement. Totalement. C'est pourquoi, d'ailleurs, il confirme ce que j'ai dit. Quand je parle de mépris, là, c'est ce qu'il a dit tout de suite. Quand il y a perte de vie humaine, on vous a donné des propositions, vous ne pouvez pas le faire. Et vous-même, vous avez des groupes électrogènes à la maison. C'est sûr que vous ne pouvez pas sentir l'impact. Je les partage totalement. Hein? C'est irritable pour notre pays, quoi. Parce que tout simplement, voyons, de 60 ans de jour, tout le monde sait que l'électricité, c'est l'investissement. On ne peut rien faire. C'est comme on le dit à Mamara, c'est-à-dire qu'il faut y faire face, il faut investir. Ce n'est pas pour rien que nous avons demandé de faire une adresse nationale.
Pensez-vous que l'État est conscient de ce problème?
Non, quand je parle déjà de mépris, il y a tout là-dedans. Un manque de vision et tout ce qui s'ensuit. Mais nous savons tout simplement qu'un pays ne peut jamais aller sans l'électricité. Le développement, c'est l'électrification. Tout ce qu'on doit faire là, toutes les réformes, rien ne peut aller sans l'électricité. Mais vous voyez aujourd'hui, même ceux qui ont ceux qui sont nantis et qui n'ont même pas de groupe électrogène, quand ils ont les climatiseurs à la maison, à cause de la non-stabilité du réseau, et les climatiseurs ne fonctionnent pas bien. Tout ça, c'est l'impact. Et un pays voisin, où pratiquement il n'y avait même pas d'électricité en dépit de son potentiel. Mais quand un président visionnaire est arrivé, il a commencé d'abord à faire le barrage. Et c'est ce pays-là qui va nous fournir très prochainement, et précisément en 2021. Voilà.
Le technicien me fait un signe qu'on a un souci avec notre troisième invité, un problème de réseau téléphonique. Vous venez d'écouter Jimmy Kanté. Quelle analyse faites-vous de ces propos?
Monsieur Kanté, c'est beaucoup plus basé sur le secteur sanitaire, notamment dans nos hôpitaux. Dire que lorsqu'il y a coupé d'une heure, ça peut occasionner vraiment des pertes en vie humaine. C'est déplorable parce que le monsieur en face l'a dit. Ils sont conscients, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers ça? C'est ça la grande problématique. Sinon, tout le monde sait que l'investissement aujourd'hui, que le Mali vraiment doit s'orienter, c'est un peu ça. Nous avons tout. C'est-à-dire, nous avons toutes les conditions vraiment réunies. On a parlé du soleil. Il y a les ressources naturelles aussi. Vous savez, les ressources naturelles peuvent être transformées en énergie. Aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables. Est-ce qu'il faut être toujours dans le classique? Nous avons deux barrages. Et j'ai dit deux barrages. Nous avons deux fleuves, celui du Sénégal et celui du Niger. Mais comment ne pas vraiment profiter pleinement pour l'électrification de nos villes et des campagnes?
Peut-on déjà parler de négligence de l'État?
Ça a été toujours une négligence. Hein. Ça a été toujours une négligence parce qu'il a cité l'exemple. Le pays qui était moins électrifié aujourd'hui est plus électrifié que le Mali. Vous savez, notre taux de couverture en électricité est de 50%. Et le pays dont il a pris l'exemple...
Donc vous partagez en un mot ce qu'il avait dit par rapport au mépris de l'État envers les
pleinement, c'est un manque de vision, comme je l'ai dit, c'est un manque de vision, mais de volonté politique, parce que tout, nos politiques, toute notre vision sont basées peut-être sur 2 ans, 3 ans. Non, il faut étendre cela à 20 ans, 30 ans, parce qu'il s'agit vraiment de l'économie, mais du développement d'un pays. L'État est une continuité. Ce n'est pas normal que quand tel régime met quelque chose en place et ce dernier n'est plus, même si un premier ministre met une action en place, celui qui va venir après lui essaie de saboter cela. Mais l'État est une continuité. Il faudrait que cela soit clair dans la vision des hommes politiques.
Le Mali manque-t-il de moyens pour résoudre tous ces problèmes de délestage?
On ne manque pas de moyens. Aujourd'hui, on doit aller à l'autonomisation, l'indépendance énergétique. Il faut aller vers ça. Parce qu'on ne peut pas dépendre. Quand il y a eu coupure d'électricité hier, on était sur un groupe, je l'ai rappelé. Il dit, mais on ne peut pas se développer dans ces conditions-là. Je l'ai dit tout de suite, nous avons toutes les conditions réunies. Les ressources naturelles sont là, on a de l'énergie. Mais pourquoi ne pas orienter vraiment notre vision vers ça? Parce que c'est la transformation de notre économie. Tant qu'on dépendra vraiment de l'énergie importée de l'extérieur, on tenait bien que on n'aura pas vraiment nos ambitions de développement. C'est-à-dire là où on veut aller, on n'attendrait pas. Parce que nous nous produisons, comme je l'ai dit, mais ce qu'il manque, c'est la transformation. Par contre, tant que tu ne transformes pas, tu ne peux pas avoir la valeur ajoutée. Ça veut dire que tu crées ou tu alimentes d'autres économies. Nous exportons plus de 70% de nos productions. Nous avons pris le secteur minier et nous avons pris le secteur cotonnier. Qu'est-ce que nous produisons qu'est-ce que nous transformons de notre production? Très moins. C'est pour dire que c'est un cri de cœur quand les consommateurs parlent ainsi. Et tout le monde vraiment doit se lever pour dire que ça suffit. Il faut une politique énergétique basée sur le long terme avec vraiment l'ambition d'atteindre nos objectifs.
Est-ce que les moyens financiers y est pour faire face à ces délestages?
Oui, M. Nyoran, ce n'est pas un problème financier. Ce n'est pas un problème financier, non. Comme je l'ai dit, je le répète, le manque de vision l'a accumulé, c'est ce qui crée le mépris. Sinon, bon, comme il l'a dit, on a des ressources. Sur le plan, on a beaucoup de ressources minières. Pourquoi ne pas les investir dans le cadre de l'électrification? Mais cela ne peut pas se faire tant qu'on ne se donne pas un programme. On appelle la population en leur disant oui, parce que c'est des investissements qui durent en moins de 3 ans, 5 ans. Donc, on les appelle. Voilà les problèmes, voilà les problèmes. Donnez-nous le temps. Et au bout de 3 ans, vous n'aurez plus de problème par rapport à l'électrification. Et avec des stratégies bien claires et précises, c'est sûr qu'on pourra s'en aller. Mais si toutes les ressources qu'on a sont investies dans... Bon, servent à l'entretien de la démocratie, vraiment, c'est dommage, quoi, c'est dommage.
Y a-t-il aussi un gaspillage du côté des consommateurs?
Non, on peut pas, mais il faudra d'abord en avoir. Pour gaspiller, il faudra d'abord en avoir. Mais on n'a même pas d'électricité pour qu'on puisse gaspiller, non. Actuellement, à Bamako, qui peut dire qu'il y a gaspillage? Je ne sais pas. Bon, et puis d'ailleurs, on parle de gaspillage quand effectivement on en a en abondance. Et en ce moment, la société se donne les moyens pour dire attention, ne faites pas ça. L'éducation du consommateur rentre en ce moment-là. Nous avons dans ces pays, les pays voisins-là. C'est-à-dire, le monde est interplanétaire aujourd'hui. Nous voyons tout. Ces pays voisins-là. On voit comment le consommateur est éduqué. L'éducation du consommateur se fait. Ne sortez pas en laissant les ampoules allumées, éteignées. Bon, même quand il y a les veuses, là, il faut essayer de les éteindre parce qu'il y en a. Mais aujourd'hui, ici, nous n'avons pas. Est-ce que réellement on peut gaspiller? Je ne pense pas que non.
Il a parlé tout à l'heure de fleuves, notamment également des barrages, le barrage de Selengué, le barrage de Manantali. Ces différents barrages ne sont-ils pas suffisants?
Non. Vous savez, si nous prenons par exemple le cas de Manantali. Manantali, c'était pour à peu près une quinzaine d'années. Mais il faudra tenir compte également du développement, le facteur démographique et tout ce qui s'en soit. Et le développement des activités. Mais malheureusement, Manantali a pris 10 ans de retard. Et finalement, quand on a fait le bradage,
Parce que moi, je ne parle pas de privatisation. Quand on a fait le bradage de l'EDM, ils sont venus pour 5 ans, puis ils ont, les Blancs ont tiré le maximum de profit, ils sont repartis. Mais chez nous, c'est quoi?
Vous avez parlé de démographie. En quoi la démographie a-t-elle un problème avec le délestage?
Si. Je dis le lien, c'est quoi? Quand il y a les forces productives, il y a le développement des activités. Et quand il y a le développement des activités, forcément, on doit faire appel à l'énergie. C'est ça. Le facteur démographique est là. Mais malheureusement, si au Mali, on n'en tient pas compte, on n'en tient pas compte, il y aura toujours des problèmes.
Donc, il y a gaspillage des consommateurs?
Non, pas gaspillage des consommateurs. Aujourd'hui, au Mali, c'est le thermique, le groupe électrogène. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut... Et nous ne sommes pas producteurs d'hydrocarbures. Vous pensez que réellement on peut importer les carburants, venir mettre ça dans les groupes, transformer ça en électricité et puis que le consommateur moins ait accès à ça? Non. Tout ça, c'est un problème de vision. Si c'était avec l'énergie solaire ou bien avec thermique, les fleuves sont là, réellement le coût serait abordable.
Sait-on déjà ce qui manque?
Oui, je pense qu'on sait ce qui manque. En fait, le problème est connu. Problème est connu. Il faut juste aller à l'acte. Les problèmes sont connus et les résolutions également sont connues. Mais comme on l'a si bien dit, c'est un manque de vision, c'est un manque de volonté, vraiment de volonté politique. Vous avez parlé du coût d'investissement. Nous investissons dans les choses qui sont moins importantes que l'électricité. On investit dans des actes. En réalité, quand on prend un peu notre budget, le fonctionnement de notre État, le fonctionnement de l'administration. Vous savez que dans le budget 2021 qui est prévu, il y a au moins 750 milliards qui est prévu pour payer 113 000 fonctionnaires. Donc, c'est déséquilibre. En réalité, si nous économisons ce qui doit être pris pour payer les fonctionnaires, je ne dirais pas qu'il faut couper le salaire, mais qu'il faut revoir. Parce que dans ce même masse salariale, il y a ceux qui prennent plus, il y a ceux qui prennent moins, et il y a ceux même qui ne travaillent pas, mais qui prennent. Donc, l'assainissement vraiment de nos budgets, le gain que nous aurons dans ça, nous pourrons financer l'électricité. Il a parlé du secteur minier. Ce que nous, les retombées que le secteur minier nous donne, qu'est-ce que ça sert? Mais ça doit pouvoir financer d'autres secteurs tels que le secteur de l'énergie.
Vous avez parlé également des énergies renouvelables. Y a-t-il le Mali a-t-il le moyen nécessaire pour exploiter ces énergies renouvelables?
Vous savez, le COP 2021 de Paris, la conférence sur le climat qui est tenue au Maroc, au Marrakech, c'était un Malien même qui était le coordinateur pour l'Afrique. Du nom de Séni Nafo. En réalité, les énergies renouvelables, c'est la nouvelle vision vraiment dégagée par les experts du secteur pour dire que ce que nous avons l'habitude d'utiliser, quand on prend un peu les deux fleuves, que ce soit le fleuve Sénégal ou le fleuve Niger, le débit des coûts peut baisser, mais avec les énergies renouvelables, c'est continuel. Les énergies renouvelables, le soleil, il faut le transformer en énergie, il faut le transformer en gaz, il faut le transformer en d'autres produits vraiment réutilisables. Mais tant que nous n'avons pas cela, ou bien tant que nous ne mettons pas cela en place, parce que nous sommes un pays sahélien, un pays où il fait extrêmement chaud, 10 heures d'ensoleillement par jour, c'est assez énorme, mais il faut quand même des stratégies vraiment pour pouvoir bénéficier de ça. Il y a des pays qui veulent être nous à notre place, parce qu'il manque ce que nous avons abondamment. Mais si nous n'avons pas de vision vraiment de mettre toutes ces potentialités à notre profit, ce serait dommage.
Je rappelle que nous avons toujours des difficultés à avoir notre troisième intervenant sur ce plateau qui est au téléphone, Chan Shirfi Alpha de Tombouctou. Alors, avez-vous une idée de ce qui bloque ou qui empêche en tout cas l'exploitation des énergies renouvelables?
Non, oui, bon, chose. Le tout se résume à manque de vision, quoi. Imaginez, on avait dans le temps, sous la Deuxième République, on a mis chez nous le Centre régional d'énergie solaire, le CRES. C'était un grand projet et le siège était au Mali. Mais nous n'avons rien tiré de cela. Nous n'avons rien tiré de cela. Donc moi, je me dis sincèrement, bon, et ce débat-là, ce débat-là est nécessaire par rapport à l'élaboration d'une vision claire et précise pour faire face à la désertification. C'est sûr, il est nécessaire. Parce que les gens qui viennent là, ceux qui viennent là, bon, ils n'ont vraiment pas de programme. Surtout au Mali, bon, c'est regrettable, on ne vote pas pour le programme. Et nous espérons effectivement que les jours à venir, les années à venir, la population va essayer de voter pour un programme. Mais sinon, aucun d'entre eux n'a une vision par rapport à l'électrification. Alors que sans vision par rapport à l'électrification, c'est tout juste seulement renoncer au développement de son pays.
Alors, quels pourraient être, selon vous, les avantages de ces énergies renouvelables ?
C'est-à-dire, les avantages, c'est quoi ? Nous avons en quantité suffisante. Donc ça, c'est déjà l'accessibilité maintenant. Il y aura la disponibilité et l'accessibilité pour le consommateur. Pour nous, c'est ce qui est primordial. La disponibilité et l'accessibilité, plus la qualité. Et la protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous cherchez encore ?
Est-ce que ces énergies renouvelables n'ont pas des inconvénients sur les populations ?
Non. Non, pas d'inconvénients. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les déchets, là. Bamako est envoyé aujourd'hui du déchet. Pour ça, ces déchets-là, on peut les transformer en électricité. Si ça dit réellement, ça contribue à l'assainissement de l'environnement. Voilà.
Alors, les panneaux solaires sont-ils aussi bénéfiques pour les populations ?
Oui, exactement. Quand vous laissez Bamako et que vous rentrez un peu au profond du Mali, à l'intérieur, vous ne verrez que les panneaux solaires. Vous partez voir, il y a des villages qui sont électrifiés, pas avec l'électricité de l'EDM, mais avec les panneaux solaires. Donc, c'est pour dire que si dans nos campagnes déjà, c'est entrepris, donc c'est pour dire que ça a des conséquences vraiment très fortes. Surtout quand vous progressez plus du centre un peu vers le nord, ça serait beaucoup avantageux. Vous savez que les États-Unis ont la plus grande centrale solaire au monde. Ils l'ont mis, mais ils continuent toujours de l'exploiter. Et ça a été mis depuis les années 2010. Mais quand vous prenez de 2000 jusqu'à maintenant, ils ne font que l'entretenir parce que l'investissement est déjà fait. C'est pour dire que c'est des éléments, quand vous investissez une fois, il suffit de l'entretenir. Maintenant, pour investir, c'est une décision, vraiment une vision politique. Et sinon, toutes les conditions, aucune condition ne manque vraiment à nous. Nous avons les ressources, nous avons l'espace, surtout l'espace. Quand vous partez, vous voulez mettre en place ce qu'on appelle les villages électriques. C'est des investissements assez énormes, mais on peut servir, pourquoi même pas exporter de l'électricité.
Quel doit être le rôle de l'État pour permettre aux consommateurs de bénéficier d'une meilleure électricité ?
Vous savez, l'État, c'est en réalité le garant du développement, c'est le garant de. C'est l'État qui trace la vision, c'est l'État qui remplit les conditions, c'est l'État qui en réalité, qui incite le privé à y aller. On a parlé du cas de l'EDM. L'EDM est seul sur le marché de l'énergie aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ça ? Est-ce que ce n'est pas l'État même qui encourage cela ? Non, il faut le privatiser, il faut permettre à d'autres personnalités de s'y investir. Aujourd'hui, il y a des Maliens privés.
Donc vous estimez qu'il faut privatiser l'EDM et ça ?
Il faut aller, pas, non, je ne parle pas de l'EDM, mais créer une autre société. Il faudrait que les investisseurs privés entrent dans le domaine. Quand nous prenons le secteur des télécoms, nous avons Orange, nous avons Malitel.
Pourquoi peut-elle contribuer ces sociétés-là ?
La concurrence crée toujours la bonne consommation, parce que plus il y a de la concurrence, plus les gens vont essayer d'alourdir ou bien rendre flexibles les conditions d'accès. Vous prenez, quand le secteur est tenu par l'EDM seul, et que demain, il y a une société qu'on peut appeler peut-être Maïga SA, mais qui produit également de l'énergie. Mais ils vont dire, attention, les moments de délestage, si nous ne faisons pas attention, et les Maliens vont tourner vers d'autres côtés. C'est ça qui a fait le secteur des télécoms. Je prends toujours l'exemple sur ce cas-là. Le secteur des télécoms, il faut investir, il faut financièrement, il faut être au top avant de s'y investir. Mais aujourd'hui, nous avons 3 opérateurs au Mali. Un quatrième qui est annoncé. Donc, c'est pour dire qu'on peut le faire dans ce secteur de l'énergie comme ça. Et là, la concurrence va créer d'autres opportunités pour les consommateurs.
pour lui, la solution, c'est la privatisation. Est-ce que pour vous, la privatisation est-elle nécessaire en ce moment?
En fait, il faut faire extrêmement attention au Mali. Au Mali, il n'y a jamais eu de privatisation. Il y a les bradages. C'est-à-dire que M. Maricot est en train de parler dans un contexte logique. Mais le contexte malien n'est pas logique. Donc, les premières... on a vu la privatisation de 2001, de 2000. Mais ça n'a jamais été privé. Donc, c'est en cela que j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Mais ce que moi, je demande tout simplement, c'est l'utilisation, effectivement, de toutes nos potentialités que nous avons. D'accord, on va dire que l'éolien, c'est vers le nord. Mais quand même, ici, on a le soleil. Donc, réellement, qu'on essaie d'aller vers ce chemin, vers, je parle sous son couvert, là, le changement climatique, il y a un fond climat. Donc, le Mali peut, effectivement, en élaborant de bons projets, peut effectivement copter les ressources là-bas pour faire face à des villages et à des villes. On l'a vu dans un pays voisin également. Le président a carrément dissous le Sénat et l'argent a été investi.
Donc c'est ces propositions-là que vous avez inscrites dans vos doléances envoyées au président.
Exactement, on l'a dit. Voilà, on l'a dit de carrément de supprimer. Ou bien de supprimer carrément la location des groupes. C'est-à-dire, il faisait la location des centrales. On a dit non, ce n'est pas bénéfique pour le Mali. Les programmes d'urgence, ce n'est pas bénéfique pour le Mali. Donc faisons un programme réel à long terme pour pouvoir investir et faire face aux problèmes de l'économie. Si vous allez sortir tout de suite, on va vous appeler non. Le coût de production, c'est 30 francs, 140 francs, c'est vendu à 98 francs. Tout ça, c'est du bluff. Parce que c'est le manque de vision qui fait tout ça. On a dit d'abord, OK, faites d'abord l'audit des hydrocarbures, l'audit de la subvention, tout ce qui s'ensuit. Et maintenant, vous allez savoir quel plan élaborer pour faire face aux problèmes des Maliens.
S'il y a manque de vision dont on vous dit, est-ce que toutes les propositions que vous avez faites au niveau du régime précédent, ce régime en place, peut-il travailler avec ces doléances?
Non, mais ce que je dis, l'État, c'est une continuité. On n'a pas commencé avec le régime précédent. Nous avons dit depuis l'avènement de la démocratie, nous avons commencé. Et nous avons pour la première fois visité les installations de l'EDM, c'était en 1998. C'est ça. Donc, c'est l'État, c'est une continuité. Mais chaque année, c'est un problème récurrent. C'est pourquoi je parle de mépris. Et vraiment, si ce n'est pas même le respect de Sidio Tamane, là, moi, je ne viens pas pour ces trucs-là. Nous préférons réellement dire aux plus hautes autorités, en tout cas, d'élaborer un plan pour faire face à l'électrification du Mali. Ce n'est pas... Mais imaginez un peu. C'est pourquoi je ne sais pas si vous avez bien analysé. J'ai dit l'entretien de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons jamais qui n'évoluent pas à hauteur de souhait et qui sont budgétivores. Donc, au lieu de faire ces investissements, il faut les prendre pour les investir dans le productif. Dans le productif. Diminuer ça. On ne parle pas de diminution des salaires des gens de la fonction publique, mais l'entretien de ces institutions-là. Il faut les diminuer carrément pour faire face à l'investissement de l'électricité. Et puis, sans l'été, c'est tout.
À qui profitent toutes ces coupures d'électricité?
Bon, sûrement pas l'État tel que nous on l'a connu. Et peut-être à certaines personnes, parce que plus on fait cela, peut-être le marché des groupes électrogènes ou bien les marchés d'autres moyens puissent vraiment être... les gens puissent orienter vers ces marchés. Sinon, je pense que cela ne profite pas à l'État parce que dans une situation où nous venons d'une crise et que, encore une fois, il y a tous ces problèmes sociaux vraiment qui surgissent encore, en tout cas pas à l'État.
Alors pourquoi toutes ces coupures à la même période?
On l'a rappelé en début de l'émission, chaque année, mars, avril, mai, il y a cela. Ça dépend de là où nous prenons de l'énergie, de l'électricité. Le cas de l'EDM, ils ont parlé de la Côte d'Ivoire, qu'il y a eu des branches qui sont tombées sur des canaux vraiment qui transportent de l'énergie. Donc c'est pour dire qu'à chaque période, on a ces mêmes problèmes. Je pense qu'il y a eu un mouvement même qui a été créé pour dire bon, pourquoi cette période-là, il y a cela. Seuls les gens de l'EDM vraiment pourront répondre vraiment à ces questions. S'ils étaient là, ils seraient bien outillés vraiment de pouvoir éclaircir les Maliens. Pourquoi cette période de chaleur, bien sûr, et qu'il y a cette coupure vraiment inexplicable.
En ce mois béni de Ramadan et ce mois de canicule également, qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui, tout de suite, pour mettre fin à ces délestages, selon vous?
Je pense qu'ils sont en train d'après leur communiqué, ils sont en train de trouver la solution, parce qu'on ne peut pas dire, bon, il faut aller... Non, c'est des problèmes, c'est des conjonctures, il faut trouver des solutions conjoncturelles, donc tout de suite, aller à cela, régler pleinement le problème pour un ou deux mois, et après, revoir une vision, parce que ce que nous demandons, ce n'est pas des visions de court terme, mais de long terme, c'est des visions vraiment réelles qu'il faut dégager. Ce régime ne pourra pas le faire, bien évidemment, parce qu'il y a une mission qui leur a été confiée. Je pense qu'ils le feront, mais le régime après, il faudrait qu'ils pensent vraiment à mettre en place des politiques économiques réelles pour le développement de notre pays.
Cette solution sera-t-elle réelle?
Et oui, mais je voudrais tout simplement dire d'abord que si ça ne profite pas à l'État, mais pourquoi ça dure si tant?
Donc vous estimez que ce bon, voilà, parce que nous profite à l'État.
Voilà, parce que nous disons effectivement...
Il y a...
Non, je vais tout simplement dire qui sont les propriétaires réels, qui sont les commerçants réels de ces groupes électrogènes-là. Nous n'avons pas de choix, c'est-à-dire nous n'avons pas de réponse. C'est pourquoi nous disons non. À qui profite? Qui sont ces propriétaires-là? Pourtant, j'ai dit, quand un État... Les plus fortes autorités n'ont pas de vision, donc les actes qu'ils posent ne prendront jamais en compte les préoccupations de leur population. Et si elles doivent prendre, ça va prendre une minorité. Donc ces coupures-là ne font qu'appauvrir les plus démunis et enrichir les nantis. Actuellement, Et ils sont en train, je vois au niveau des ménages, parce que nous sommes près des ménages, actuellement, dans leur famille, ils sont en train de produire de la glace. Ils s'enrichissent. Donc, mais par contre, nous, au niveau des familles pauvres, là, nous n'avons pas ces moyens pour accéder à ces glaces-là. Donc, si on les prenait hier à 50-25, avec le délestage, on les prend à 100 francs. Donc, quand tu prends à 100 francs pour aller revendre, 125, finalement, ça ne rentre que dans le cadre de l'appauvrissement de certains ménages.
En tant que consommateur, est-ce que vous avez réellement joué à votre rôle de défense?
Nous continuons et nous continuerons toujours à jouer notre rôle. Nous ne plaisons pas aux gens, hein. On dit tout simplement que nous ne savons pas parler, nous sommes violents dans nos propos, parce que nous sommes près de nos populations. Nous sommes près de nos populations. Et même venir ici pour débattre le problème, c'est pour dire que nous sommes en train de jouer notre rôle. Mais vous savez, notre mission, c'est la dénonciation et l'interpellation et des propositions. Et nous avons effectivement dénoncé, nous avons interpellé, nous avons fait des propositions.
Vous avez interpellé qui?
La première personnalité de la République, le président de la République, en son temps. Et après, on a interpellé le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est l'exécutif même. Donc nous disons effectivement que nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons faire. Et nous continuerons également.
Ces interpellations, c'est à travers des écrits?
C'est à travers des écrits et à travers des rencontres.
Merci. Ainsi se referme ce débat sur le délestage d'électricité. À qui profitent ces coupures d'électricité? Nous étions avec Abdul Wahab Djekite, membre de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, Ibrahim Mariko, économiste au Centre d'études stratégiques, Chan Shirfi Alpha, notable à Tombouctou, qui malheureusement nous a quittés au cours de ce débat, faute de réseau. Je rappelle que toutes nos tentatives pour compter parmi nous un des responsables de la société d'énergie du Mali sont restées sans suite. À la présentation de ce débat, Imrana Kilo Maïga, à la régie vidéo Mamadi Keïta, mise en nom de Seydou Dao. Ce débat a été coordonné par Mouhamadou Touré. À demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumani.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le grand dialogue.